La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comprendre le cerveau aide-t-il à comprendre la société ? En général, lorsqu'on veut comprendre la dimension sociale des individus qui composent une société, on part de l'étude de la société elle-même. On décortique ses caractéristiques culturelles, historiques, politiques, religieuses, puis on tente de comprendre à partir d'elles comment elles agissent sur les individus, sur leurs décisions, sur leurs comportements, leurs opinions ou leurs croyances. Cette démarche qui ne manque ni de pertinence ni d'argument procède de l'idée que c'est la connaissance de la totalité qui permet d'accéder à celle de ses parties. Mais que se passerait-il si on faisait les choses à l'envers? Si on raisonnait dans l'autre sens? Si, pour comprendre les individus, on partait non des sciences sociales, mais de l'étude de l'homme en tant que lui-même, plus précisément de l'étude de son cerveau? Une bonne description des interactions entre les neurones de nos cervelles permettrait-elle de mieux comprendre les relations qu'ont les individus au sein de la société? Sans doute, mais la question se posera alors de savoir si on a le droit d'envisager une sorte d'analogie entre le fonctionnement du cerveau et celui de la société. Chacun sait qu'il faut se méfier des analogies, d'une part parce qu'elles regorgent de pentes savonneuses, d'autre part parce qu'elles relèvent parfois moins de la rigueur intellectuelle que de la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, pour reprendre les mots de Lautréamont, que je salue au passage avec un respect sans borne. Puisque je viens de citer un poète, je peux bien en citer un autre. Alors avant de vous présenter notre invité et de lui donner la parole, je vais me permettre de lire un fragment du poème de Rimbaud qui s'intitule « Les assis ». Car ce poème contient un mot qui va beaucoup servir au cours de notre conversation scientifique d'aujourd'hui. Je lis Rimbaud. Noir de loupe, grêlés, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs, le sinciput plaqué de hargnosité vague comme les floraisons lépreuses des vieux murs, ils ont greffé dans des amours épileptiques leurs fantasques ossatures au grand squelette noir de leurs chaises. Leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Fin de citation. Le mot important pour nous, je vous le dis d'emblée parce que vous ne pourriez pas le deviner tout seul, c'est épileptique. J'accueille donc à ce micro avec grand plaisir Lionel Nakache. Bonjour Lionel Nakache.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes neurologue, vous êtes professeur de médecine à la Pitié-Salpêtrière. Vous dirigez une équipe de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et vous êtes membre du Comité consultatif national d'éthique. Ça fait beaucoup, ça.
Ça fait beaucoup.
Et en plus, vous venez de publier un livre dont le titre est « L'homme raisonnable », réseau écrit R-E-S-E-A-U, sous-titre « Du microcosme cérébral au macrocosme social ». Et donc, c'est un titre qui évoque le sujet que je propose que nous discutions aujourd'hui. En fait, c'est votre titre qui m'a donné l'idée du sujet. Et de façon très étonnante, vous citez en exergue de votre ouvrage une phrase d'un roman de Bernard Malamud, oui, qui s'intitule « L'homme de Kiev ». Et cette phrase est la suivante. « Une chose que j'aurais apprise, songea-t-il, c'est que personne ne peut se permettre d'être apolitique. » C'est une phrase étonnante pour un livre de neurosciences.
Oui, absolument. Absolument. Je suis content que vous l'ayez remarqué, parce que pour moi, elle remplit une fonction, effectivement. Alors, Malamud, d'abord, il s'avère que c'est un des écrivains que j'apprécie beaucoup, en fait, qui était un écrivain de l'école, si on veut l'appeler comme ça, juive américaine de la côte Est à partir des années 50, et beaucoup d'auteurs, donc jusqu'à Paul Auster aujourd'hui, sont un peu des écrivains qui ont peu apparenté à cette école. Il a écrit de superbes nouvelles et quelques romans, et notamment ce roman « L'homme de Kiev », qui est un roman aussi sur une histoire d'antisémitisme dans l'Europe, etc. Mais le point pour lequel il s'avère que je lisais ce livre pendant que j'ai écrit cet essai-là, mais la raison pour laquelle j'ai retenu cette citation, c'est qu'effectivement, pour moi, si vous voulez, la préoccupation principale, c'est l'individu. C'est vraiment ce qui me préoccupe et ce qui fait que j'ai fait ce métier aussi et que je le fais encore. C'est
plus que la société, donc.
Ouais, plus que la société et plus que, je dirais, que le politique en soi, la chose politique, ne m'intéresse que très indirectement. parce qu'en réalité, le seul objet d'intérêt pour moi central, c'est l'individu. C'est la préservation de l'autonomie d'un sujet, de la sensibilité, la fragilité d'un sujet, etc. Et que du coup, on peut se dire qu'évidemment, qu'on n'est pas totalement naïf, que la question politique se pose, mais qu'elle ne s'impose pas nécessairement. Et là, en fait, à travers cette réflexion, cet essai par analogie, je suis tombé assez rapidement, comme vous l'avez vu, sur le fait que c'est pour moi un livre politique. Alors, c'est peut-être pas comme ça que les lecteurs le liront, mais pour moi, c'est un essai qui a un engagement, non pas un engagement militant, mais une réflexion qui a introduit de manière nécessaire pour moi la chose politique. Et c'est pour ça que j'ai préféré, que j'ai voulu associer ce livre.
On y parle à la fois de la vie des neurones et de politique, ce qui est assez curieux comme
lien.
Comme juxtaposition de sujets de recherche.
Oui, alors j'ai écouté aussi avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit en introduction. Et il s'avère que ce lien entre le cerveau et la société, il s'est un peu imposé à moi à travers une sorte d'idée qui m'est tombée dessus. Mais il est intéressant d'abord parce que c'est le seul lien que je peux explorer, dans le sens où, n'étant pas un expert de la société ni de sociologie, si jamais je tombe sur un lien entre les deux, ça peut aller pour moi, ça ne peut procéder que du microcosme du cerveau au macrocosme de la société, parce que l'inverse, j'en serais totalement incapable.
Alors peut-être que vous pouvez raconter l'anecdote qui vous avait pensé à ce lien.
L'anecdote est authentique, hein, ça peut paraître un peu gnangnan, mais c'est absolument... Je me promenais en fait sur un bord de plage en fait...
En vacances.
On y étions tous les deux avec mon épouse. Voilà, ça arrive, j'espère, à beaucoup de monde. Et puis on était très bien, donc il y avait une singularité du moment, on était tous les deux très bien, c'était très agréable. Mais pour autant, on s'est rapidement rendu compte que si le moment était pour nous singulier, le lieu sur lequel on se promenait, qui était un bord de plage aménagé de la Méditerranée, avec ses cafés de plage, avec ses bars, avec ses fauteuils, ses machines de sport, avec tout, disons, le sorte d'architecture urbaine, l'urbanisation d'une sorte de plage, un peu en tout cas aménagée de manière assez esthétique, des palmiers savamment posés, des pierres, etc. Vous vous dites, en fait, c'est drôle, on a fait à peu près 5000 km, donc on s'est déplacé de manière extrêmement... facile, on s'est éloigné, on a fait 5000 km, on est parti d'un point A à un point B, donc on a fait un voyage assez distant, un long voyage, assez rapide, avec peu d'efforts, et pour autant, on se trouve dans un lieu à propos duquel on ne peut pas vraiment savoir où nous nous trouvons. Ce lieu, vous pouvez le trouver, ça aurait pu être une plage je sais pas, du Maroc, du sud de la France, de la Floride, du Brésil, n'importe où. Il s'avère qu'on était sur une plage de Tel Aviv, mais on s'est fait vraiment ensemble cette réflexion, assez drôle. On voyage comme aujourd'hui, on voyage comme il n'a jamais été aussi facile de se déplacer physiquement d'un lieu du globe à l'autre.
Enfin, il y a plus de contrôle de sécurité qu'avant.
Il y en a plus. Mais néanmoins, ça reste rapide, en général peu cher, la plupart du temps assez sûr. Et pour autant, cette facilitation du voyage, elle s'accompagne paradoxalement, en tout cas un paradoxe apparent, par le fait qu'on a de moins en moins l'impression de voyager. J'appelle ça le voyage immobile, c'est-à-dire qu'on se déplace, mais en fait, donc le début, c'est ça.
C'est comme si le monde était invariant par translation.
Exactement, alors qu'il n'a jamais été aussi facile de translater. Donc on pourrait imaginer intuitivement que, maintenant qu'on a de la facilité à se déplacer, peut-être qu'on va plus facilement gagner l'exotisme. Et pour autant, alors je ne dis pas que c'est un phénomène systématique, mais de plus en plus souvent, et pas seulement en voyage, quand vous allez, même en France par exemple, dans 2 semaines je vais devoir aller à Toulouse pour une conférence. Je sais d'avance que dans le centre-ville de Toulouse, les enseignes que je vais voir, les lieux que je vais visiter, en fait, ils vont avoir de moins en moins de spécificité par rapport... vous pouviez ramener des choses assez facilement il y a 20, 25 ans d'un endroit où vous vous trouviez pour faire plaisir à vos proches.
Il reste l'accent quand même.
Il reste l'accent, absolument. Et donc, le point de départ, c'est ça. Et le point juste après, l'analogie, c'est qu'une fois qu'on s'est formulé ensemble ce sort de paradoxe apparent, j'ai réalisé que pour moi, comme neurologue et comme chercheur du cerveau, il y a quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire que quand dans le cerveau, il y a des régions cérébrales qui sont séparées les unes des autres, qui se mettent à communiquer plus que de raison, si on veut dire, et que cette communication devient du coup extrêmement appauvrie, extrêmement stéréotypée, et qu'en fait, ces lieux perdent leur personnalité, perdent leur singularité. Ils ont tous le même code à un moment donné. Ça porte un nom, ça s'appelle une crise d'épilepsie.
Et donc vous êtes dire, nous sommes en le monde est en crise d'épilepsie.
Alors, peut-être pas le monde, en tout cas qu'il y a quelques symptômes qui pourraient laisser ouvrir une grille de lecture épileptique. Une sorte d'épilepsie du monde qui n'est pas une épilepsie permanente, mais une tendance épileptique.
En tout cas des lieux touristiques.
Alors des lieux touristiques, mais une fois qu'on se le formule, vous pouvez ensuite, et c'est aussi le début un peu de ce jeu avec cette analogie, il y a de plus en plus beaucoup de lieux, je sais pas, vous prenez des aéroports, vous prenez des hôtels, vous prenez des restaurants, vous prenez des centres-villes, de plus en plus de lieux semblent gagnés par cette sorte d'épilepsie sociétale qui est que le monde se ressemble de plus en plus, alors que, donc une sorte de réduplication de motifs assez appauvris, assez stéréotypés. Alors je ne dis pas que c'est nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est que c'est de plus en plus fréquent, et que nous en faisons tous, à une échelle différente peut-être, mais très souvent l'expérience.
Varig, lignes aériennes brésiliennes, a été heureuse de vous faire découvrir ces paysages sonores de Rio. Varig relie la France à l'Amérique latine tous les jours et souhaite vous accueillir prochainement à bord. A Varig teve o prazer de lhe oferecer essa paisagem sonora do rio e espera ter o privilégio de acolhê-lo proximamente a bordo. Varig propõe 7 voos semanais entre a França e a América Latina.
Alors ça, c'est le départ de votre livre, hein,
oui.
La sensation qu'il existe une analogie entre ce qui se passe dans un cerveau qui subit une crise d'épilepsie et ce qui se passe à l'échelle mondialisée sur notre planète.
Absolument.
Mais quand on est neurologue comme vous, par quels symptômes se signe une crise d'épilepsie ?
Il y a 3 points intéressants là. Le premier point, c'est qu'il y a des symptômes qui justement traduisent cette sorte d'hypercommunication appauvrie et stéréotypée. C'est que les patients qui sont en proie à une crise d'épilepsie, ils vont avoir des manifestations extrêmement... Alors, ce qu'on appelle des signes négatifs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des pertes de fonction. Par exemple, un patient peut perdre le langage, être aphasie. Il y a des crises aphasiques. On peut perdre évidemment à l'extrême la conscience. Une perte de conscience avec même une perte de connaissance, c'est-à-dire une perte d'éveil.
Ça veut dire évanouissement.
Voilà, exactement, même une forme de coma léger et régressif. On peut avoir des symptômes ensuite, suivant l'endroit où commence la crise d'épilepsie, ces phénomènes d'appauvrissement et de stéréotypie vont pouvoir toucher la vision, l'audition, la motricité, etc. Donc on a autant de crises d'épilepsie. Il n'y a pas que la grande crise d'épilepsie qui est connue de la plupart des gens, qui est les convulsions tonico-cloniques, les convulsions des 4 membres avec le patient qui a perdu connaissance. Mais donc il y a un premier point, qu'il y a des signes négatifs, on appelle ça des signes négatifs parce qu'il y a des pertes de fonction. Il y a également, dès que la crise va se propager d'une région limitée à une région étendue, il va y avoir cette perte de conscience. Le sujet perd conscience, et ça c'est un point qui est central évidemment dans cette réflexion, dans ce livre, c'est que la perte de conscience, ce n'est pas, comme on le pense souvent, nécessairement la perte de l'éveil, tombé dans les pommes, disons. C'est que la plupart des patients qui vont faire une crise qu'on appelle une crise complexe, ils vont rester debout, donc ils vont garder un tonus musculaire, ils ne tombent pas. Ils vont garder les yeux ouverts, donc ils ont encore un éveil cortical, mais pendant le temps de la crise, ils vont perdre toute conscience d'eux-mêmes et de l'environnement. Ils n'auront plus de jeu JE, ils ne seront plus là subjectivement, si vous voulez.
Donc on peut être éveillé et avoir perdu conscience.
Absolument. Et en neurologie, on a 2 situations, pas les seules, mais 2 situations qui sont diamétralement opposées dans leur pronostic, mais qui correspondent à ces états. Le premier, c'est une crise d'épilepsie dont on vient de parler. Le second est ce qu'on appelle les états végétatifs. Alors le terme peut-être, on peut critiquer, etc. Mais l'état végétatif, ce qu'on entend par là, c'est que par rapport au coma, en différence avec le coma, ce sont des patients qui justement par moment sont éveillés. Donc ils sont éveillés, c'est-à-dire que dans leur chambre, sur leur lit d'hôpital ou chez eux, ils ouvrent les yeux spontanément, ils vont garder les yeux ouverts pendant des heures, sans qu'on ait besoin de les stimuler, de les appeler, de les pincer, de les caresser. Ils sont là, ils ont les yeux ouverts, mais pour autant précisément, rien dans leur comportement ni dans l'activité cérébrale qu'on peut enregistrer ne laisse supposer l'existence justement d'une conscience d'eux-mêmes ou de l'environnement. Donc on peut être éveillé sans être conscient, absolument.
Lionel Nakache, je crois savoir que dans le cerveau, il y a 100 milliards de neurones.
C'est une estimation approximative, évidemment, mais 100 milliards de neurones. Ouais.
D'ailleurs, c'est assez curieux, c'est le nombre estimé de galaxies dans l'univers observable et ce nombre d'étoiles dans une galaxie en moyenne.
Ça, je l'ignorais.
100 milliards, c'est un nombre qui a l'air de faire, concerner des structures que nous pouvons repérer. Et si on regarde l'activité des neurones, alors je crois que chaque neurone est couplé physiquement à quoi, 10 000...
En moyenne, évidemment, on estime qu'il y a 10 000 connexions par neurone.
Mais elles sont physiquement installées dans le cerveau ou c'est simplement des messages qui traversent...
Ah non, ce sont donc, on parle ici des synapses, donc des points de contact entre des neurones. Mmh. Mais il faut bien voir que si le nombre de neurones est relativement... Qu'on est avec un nombre de neurones fixe, il y a des phénomènes de ce qu'on appelle de neurogenèse, mais qui sont suffisamment exceptionnels pour être intéressants. Mais l'ordre des choses, c'est que la plupart des neurones, on est avec. On va les perdre progressivement. Mais par contre, les synapses, donc les connexions entre les neurones, ça continue toute notre existence durant à être façonné comme une sorte de sculpture, vous voyez, d'argile qui continue. Donc quand vous naissez avec un nombre de neurones fixe, il y a à peu près 10 000 connexions en moyenne de chaque neurone avec ses voisins. Donc on est à 100 milliards fois 10 000. Hein, on arrive justement dans des chiffres astronomiques. Mmh. Mais c'est vrai que cette architecture fine, elle va évoluer en fonction de notre expérience, de nos apprentissages, de ce que l'on vit.
Donc cette connexion physique existe en permanence, ça ne veut pas dire qu'il y a un échange d'informations en permanence.
Absolument, absolument. L'image très simple, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi un succès d'une conception informationnelle dans laquelle on est de l'activité nerveuse, c'est que chaque neurone, en gros, est dans 2 états. Soit il est au repos, soit il est en état d'excitation qu'on appelle un potentiel d'action. Et c'est là qu'en fait, le potentiel d'action, c'est que lorsque la différence de potentiel électrique membranaire du neurone dépasse un certain seuil d'excitation par les messages qui sont reçus. Donc en gros, le neurone reçoit des messages qui lui disent « endors-toi », d'autres qui lui disent « excite-toi ». Il y a une intégration synaptique de tous ces messages. Et dès qu'un seuil est franchi, le neurone lui-même est traversé par un potentiel d'action et il va, lui, à son tour, communiquer des messages, soit excitateurs, soit inhibiteurs, à ses voisins.
Alors, vous êtes neurologue, je l'ai dit plusieurs fois, Lionel Nakache. Je vous présente 4 cerveaux humains. Le premier, c'est celui d'une personne qui est dans le coma.
Oui.
Le deuxième, c'est celui d'une personne qui est en sommeil profond. Le troisième, c'est une personne qui est en état végétatif. Et le quatrième, c'est celui d'une personne qui est en sous anesthésie générale. Est-ce qu'au niveau de ces interactions entre neurones par le biais des synapses, vous voyez des différences entre ces quatre états?
Oui, oui, ça c'est peut-être un des progrès importants des 20 dernières années, qui est l'imagerie des états l'imagerie cérébrale fonctionnelle des états de conscience, des perturbations de la conscience. Dans les états que vous donnez, en gros, les états tels que le coma, le sommeil profond et l'anesthésie générale vont partager, c'est pas les mêmes états, mais ils vont partager quelque chose de commun, c'est qu'en réalité le système qui est responsable de l'éveil, donc de l'éveil cortical et l'éveil du comportement, est perturbé. Alors soit perturbé de manière réversible et physiologique dans le sommeil profond, soit perturbé de manière non physiologique mais transitoire par la pharmacologie de l'anesthésie, soit perturbé de manière franchement pathologique dans le coma, avec là aussi des pronostics différents, hein, évidemment. Mais dans tous les cas, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'on a le cortex, les deux hémisphères, le cortex, et qui vont se prolonger vers le bas par le tronc cérébral. Et dans le tronc cérébral, on sait depuis les années 50 qu'il y a un système qui pilote l'éveil du cortex. Alors tous ces états d'absence de conscience par absence d'éveil, par absence de vigilance, ils partagent un dysfonctionnement de cette structure qu'on appelle la réticulée activatrice ascendante. L'état végétatif, et c'est ça l'aspect nouveau, parce que ce que je viens de vous dire, on le sait depuis les années 60, ça a été découvert en 50, 60, 70, mais l'état végétatif, c'est ça la surprise, c'est que les patients qui ont un état végétatif, ils ont encore du fonctionnement cortical qui n'est pas comparable à celui du coma, souvent, mais qui simplement...
Qui est plus actif, donc.
Qui est plus actif, pardon, je ne l'ai pas précisé, qui est plus actif, mais ce qu'il manque chez ces patients, c'est qu'il y a des bouts de cerveau qui fonctionnent, mais il n'y a plus de conversation cohérente à longue distance dans le cerveau. Il n'y a plus cette conversation complexe que l'on observe que lorsque un sujet est capable de nous dire « je suis ici, je vous perçois, nous discutons ensemble ».
Donc ça veut dire que ce que vous dites, c'est qu'on ne doit pas confondre l'état de conscience et les contenus de la conscience.
Alors oui, ça c'est un point important.
Il y a un chapitre entier qui est consacré à cette distinction.
Oui, parce que ça va préparer aussi la réflexion, l'analogique. C'est-à-dire que si on se dit qu'on veut introduire l'idée que s'il y a une épilepsie de la société comme il y a une épilepsie du cerveau, et que dans l'épilepsie du cerveau, le symptôme le plus grave, c'est la perte de conscience, à quoi correspondrait l'équivalent analogique de la perte de conscience dans une société? Et une des différences importantes, c'est qu'une société est composée elle-même d'individus qui ont chacun un cerveau. Et que, évidemment, la faute à ne pas commettre, si je peux m'exprimer ainsi, c'est d'imaginer que la perte de conscience d'une société, c'est une société dans laquelle les sujets eux-mêmes perdent conscience.
Ce seraient des zombies.
Ce seront des zombies, et c'est justement un des chapitres dans lequel je me suis amusé à explorer. Ce qui m'apparaît, d'ailleurs, on peut en discuter, mais le succès fantastique du topos culturel contemporain du zombie, aussi bien au cinéma, ou d'abord dans des romans, au cinéma, etc., qui nous revient sans cesse. D'après moi, il fait sens. Et beaucoup de gens s'intéressent. Pourquoi est-ce que... Et je pense qu'il y a une des grilles de lecture, c'est peut-être celle que je propose, c'est-à-dire que c'est déjà un usage implicite de mon analogie. C'est qu'on sent que le monde perd conscience. Et qu'une façon de le représenter culturellement, la plus simple pour nous, c'est de représenter le monde qui perd conscience comme un monde dont les individus eux-mêmes perdent conscience et transmettent cette perte de conscience par des contacts, le film de zombies. Mais évidemment, c'est pas ça.
Revenons à cette distinction que vous faites entre état de conscience et,
oui,
contenu de la conscience, parce que c'est la clé, en effet, de l'analogie que vous proposez. D'ailleurs, c'est une analogie assez compliquée, parce que vous faites une analogie entre l'activité des neurones et des synapses dans le cerveau et les activités au sein de la société. Or, le cerveau, c'est déjà une société de neurones.
Absolument. Et j'essaie de vraiment prendre des précautions pour limiter une des limites fondamentales de cette analogie.
Donc si vous deviez, étudier un gaz et essayer de trouver des lois empiriques qui relient la pression du gaz à sa température et à son volume, par exemple, vous seriez plutôt partisan d'étudier les atomes et les molécules plutôt que de faire de la physique statistique, non?
C'est ça. Alors oui, en même temps, on voit qu'à la fin, elles se rejoignent.
Oui, non, parce qu'il y a la thermodynamique et une mécanique statistique.
Ouais,
mais
absolument.
Pour vous, je ne crois pas que vous en soyez là.
Non, pas du tout. Et puis j'espère que ça se sent à la lecture, mais que je suis extrêmement prudent.
Vous êtes très prudent, mais vous risquez d'être caricaturé.
Ah bah ça, c'est ensuite, on ne peut pas empêcher, à la limite, ça serait donnerait l'occasion de justifier ce raisonnement. Mais disons, là, l'idée justement, et là vous aviez raison d'insister là-dessus, c'est que Un des points clés de la conscience, on peut prendre peut-être juste quelques minutes, mais la philosophie avant nous, on n'invente en rien ce que je viens de dire, mais la phénoménologie en philosophie était, je pense, un des premiers courants philosophiques qui a formulé ce fait que la conscience est un objet intentionnel au sens de Brentano, de Husserl. Et ce qu'ils veulent dire par là, c'est que on ne peut jamais dissocier le fait d'être conscient d'un objet, d'être conscient de quelque chose. C'est être conscient, c'est toujours être conscient de quelque chose.
À commencer par être conscient de soi.
Absolument. Donc être conscient à vide ne veut rien dire.
On peut pas être conscient de rien.
Alors ça, c'est pour ça que rien devient quelque chose, évidemment. Il y a souvent des jeux de logique là-dessus.
Oui, penser le rien n'est jamais penser à rien.
Exactement. Voilà. Et puis, dès que vous y pensez, vous avez un contenu particulier. Donc tout ça est assez, je pense, profond. Alors néanmoins, même si quand on est conscient, on est toujours conscient de quelque chose, il ne faut pas faire une confusion entre l'état de conscience, c'est-à-dire la capacité à avoir conscience de quelque chose, et puis les contenus de la conscience. C'est-à-dire qu'on peut, une fois qu'on est conscient, on peut avoir tel ou tel contenu. Et que je pense que c'est très important de garder à l'esprit cette distinction, parce que le seul équivalent analogique possible, d'après moi, de la perte de conscience d'une société, c'est une perte de conscience qui, chez les individus, ne correspond pas à une perte de l'état de conscience. Ce sont des gens qui restent conscients, qui demeurent conscients, au sens intransitif du terme, mais qui, par contre, ont des contenus de la conscience qui, eux, sont sensibles à cette épilepsie du monde. C'est-à-dire qu'on va avoir des contenus stéréotypés, appauvris, avec un sens critique diminué, et que ça serait une des traductions de cette épilepsie sociétale.
Donc, si je comprends bien ce que vous dites, le monde aurait connu, au XXe siècle, par exemple, deux grandes crises d'épilepsie.
Oui, je crois que c'est pas un scoop que c'était des drames, mais c'est peut-être une paire de lunettes un peu différentes pour les voir. C'est que le nazisme et le stalinisme, par exemple, sont pour moi des exemples dans lesquels l'analogie fonctionne assez bien.
Alors, essayons de voir, pour avoir un exemple concret,
bien sûr,
correspondant à ce que vous faites entre la crise d'épilepsie telle que vous la connaissez en tant que neurologue, et puis ces deux crises épileptiques, entre guillemets, ouais, que le monde aurait connues. Quels sont les points communs?
Les points communs, c'est qu'en réalité, vous avez... c'est un point qui, moi, me semblait intéressant, c'est qu'on part du fait que dans une crise d'épilepsie dans le cerveau, c'est à l'origine une hypercommunication. Il y a à un moment donné un excès de communication, une hypersynchronisation des différentes régions du cerveau. Et je trouve ça assez surprenant que les deux plus grands drames humains qui, à cette échelle, correspondent à ce qui aurait été le nazisme et le stalinisme, correspondent à des périodes de l'histoire dans lesquelles les premiers outils de synchronisation de masse, même des lieux physiques, se sont développés sans précédent. Je pense par exemple au développement des trains, du ferroviaire, au développement par exemple du transport automobile, qui, au lieu d'être avant une sorte de moyen de transport réservé à des élites minoritaires, devient à travers même le Volkswagen, la voiture du peuple. C'est l'idée de donner à chaque citoyen une voiture. Que les premières autoroutes, qui sont les voies de connexion rapide, elles naissent dans l'Italie de Mussolini. Donc il y a une sorte d'architecture physique de la société qui donne des premiers outils d'hypercommunication physique entre les deux.
On crée des synapses.
En tout cas, on croit des grandes autoroutes, des grandes voies de connexion qui favorisent la communication. D'autre part, au niveau des médias, ce qui va être utilisé par ces régimes en termes de propagande, on a un développement sans précédent à travers la radio, à travers le cinéma, à travers le contrôle de la presse, d'outils médiatiques unidirectionnels. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des blogs ou dans des tweets. Le sujet reçoit et bombardé par des informations qui vont être diffusées à des millions de consciences de manière synchrone. Donc on a effectivement des outils techniques de synchronisation des lieux, synchronisation des transports, synchronisation des esprits, qui se mettent en place dans ces deux
types de sociétés. On supprime la liberté d'expression en même temps.
Et justement, exactement. Donc du coup, on va pouvoir faire deux choses. C'est, en plus de ça, avoir un contrôle, une censure, une disparition de la démocratie, une disparition de toutes les instances intermédiaires qui vont permettre d'avoir une séparation des pouvoirs, tout ce qu'on associe à la démocratie, donc une censure énorme, etc., avec une stigmatisation de certaines lectures, de certaines pensées, de certains courants de pensée, de certains courants religieux, etc. Et donc vous avez quelque chose qui se met en place, qui va, si on essaie de le traduire, d'imaginer qu'est-ce que c'est que l'activité cérébrale des millions de citoyens du Reich ou bien de l'URSS à cette époque, eh bien vous avez une tendance forte à synchroniser des consciences sur des contenus particuliers partagés, appauvris, stéréotypés, sans esprit critique. Alors le point important, c'est qu'avec cette analogie-là, une fois de plus, je n'assimile pas les citoyens à des patients épileptiques. Ça serait faire affront aux patients épileptiques, avant tout, et ça serait faire affront aussi à la responsabilité des individus. C'est que ce qui, pour moi, est épileptique, ce n'est pas l'individu, c'est le fonctionnement de la société, dans cette analogie.
Voilà, les citoyens ne sont pas inconscients.
Non, exactement.
Ils ne perdent pas conscience, simplement, vous parlez de conscience distraite.
Oui,
absolument. Qu'est-ce que c'est qu'une conscience distraite?
C'est qu'en fait, nous avons une capacité de conscience qui est limitée. On ne peut pas avoir conscience de 1000 choses à la fois. Donc, quand on n'a pas conscience de quelque chose, d'un contenu particulier, soit c'est parce qu'on n'est pas conscient du tout, c'est une chose, soit c'est parce qu'on est très conscient d'autre chose. On est préoccupé, on est distrait, notre attention est engagée, est complètement capté par quelque chose qui nous empêche de sortir de cette contemplation, disons, et d'exercer un esprit critique, de se dire, bah non, mais en fait, peut-être que c'est différemment qu'on pourrait penser, etc. Donc il y a un effet d'attraction des attentions des individus sur des contenus particuliers.
Mais c'est plutôt une captation qu'une distraction, non ?
Oui, alors, vous avez raison.
C'est des consciences captives.
Oui, c'est-à-dire que distraction au sens neuropsychologique du terme, ce qu'on appelle la distraction, c'est pour justement dire comment faire pour arriver à attirer l'attention quelque part, et l'attention est distraite d'autre chose. Donc, par exemple, vous allez envoyer un stimulus. Tout le monde a vu cette vidéo fameuse d'un collègue qui fait traverser un cours de basket, un terrain de basketball par un acteur déguisé en gorille. Personne ne va le voir. Pourquoi on ne le voit pas ? Parce que pendant que le gorille traverse un pas lent, il n'est pas subliminal, il prend tout le temps de traverser le terrain de basketball, et bien en fait, c'est Dan Simon qui avait fait cette expérience, notre attention est distraite parce qu'on nous demande de compter le déplacement d'une balle. Donc on est totalement focalisé sur une balle, et du coup on rate autre chose. C'est ça ce que je voulais dire.
Donc une société inconsciente n'est pas une société peuplée de personnes inconscientes,
absolument,
mais une société peuplée de consciences distraites.
Exactement. Et en sachant que chacun a la possibilité ou pas de reprendre la main. Et c'est ce qui donne, ce qui permet de conserver aussi une conception d'une responsabilité individuelle dans ces tragédies.
Alors, quelle est la raison pour laquelle vous pensez que nous sommes aujourd'hui, alors que le nazisme s'est éloigné, définitivement. J'espère qu'il ne reviendra pas, mais en tout cas, il n'est pas là.
Oui.
Qu'est-ce qui vous fait penser que nous serions peut-être au bord d'une crise épileptique ?
Alors, je ne suis pas une vieille barbe qui cherche à terroriser ses lecteurs. Je pense justement que si j'ai pris ces deux exemples extrêmes, parce que ces deux exemples extrêmes me semblent vraiment conforter l'idée que cette analogie n'est pas totalement vaine ou pas totalement stérile. Mais une fois qu'on sort de ces événements radicaux et qu'on passe dans le temps contemporain, à mon sens, nous ne sommes pas dans une crise d'épilepsie. Simplement, nous sommes dans une société qui, en fait, présente des symptômes épileptiques comme jamais elle n'en a présenté auparavant. Et la raison, ce que j'essaie de développer, pour laquelle il y a cette exposition à ce risque, c'est que pour avoir une crise d'épilepsie, il faut aussi disposer déjà d'une complexité de structures sociales et sociétales très importante. Et je crois que, de par les réseaux de communication physiques, mais également virtuels, numériques de notre société, du fait qu'on a des circuits réentrants extrêmement riches, extrêmement importants, lorsque, par exemple, maintenant, nous sommes en train de parler, les auditeurs qui ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire vont pouvoir immédiatement le signifier, pas seulement à eux-mêmes, mais pouvoir réagir sur des blogs, sur des échanges, etc. Donc, on n'est plus dans une société unidirectionnelle. Et donc, tout ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est que nous sommes dans une société qui a une structure beaucoup plus complexe qu'avant, et que cette complexité, elle expose en même temps à ce qu'on pourrait appeler la pleine conscience de la société, une sorte de démocratie qui marcherait très bien, avec un épanouissement des individus, mais en même temps, du fait de cette complexité de réseau, on s'expose aussi à ces phénomènes épileptiques. Donc, ce que j'essaie de développer, c'est les deux arguments. C'est que si on est aujourd'hui plus enclin à tomber dans l'épilepsie du monde, c'est aussi parce que nous sommes plus enclins à gagner une conscience qu'on n'a jamais pu atteindre collectivement.
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
Je reviens au nazisme, Lionel Nakache, vous citez une phrase d'Hitler qui m'a impressionné. Hitler aurait dit « la conscience au sens de la conscience morale est une invention juive ».
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Écoutez, c'est assez stupéfiant, parce qu'en fait, juste avant de répondre à votre question, un des points, et ça revient aussi sur la citation de Malamud, pas pour l'aspect du judaïsme du tout, mais sur l'aspect suivant, c'est que je me suis à plusieurs moments dans l'écriture de ce livre, et en pensant ce livre, en réfléchissant à ce livre, tombé sur le phénomène suivant qui m'a interpellé, c'est que quand moi je cherche, et je travaille, et j'étudie, et j'explore les patients pour essayer de les aider, qui ont des troubles de conscience, donc quand je travaille sur la conscience sur laquelle je travaille n'a pour moi rien de moral. Je ne parle pas de la conscience morale, je parle de la conscience d'exister, conscience de penser, conscience de percevoir, etc. Et pour autant, je me suis rendu compte tout au long de ce livre que dès lors qu'on fait cette analogie entre l'individu et le groupe, l'interindividuel, très vite, cette question de la conscience est colorée d'une note de conscience morale au sens d'une éthique.
En allemand, il y a deux mots différents.
Il y a deux mots différents, oui, absolument. Il y a deux mots que je ne parle pas l'allemand.
En français, c'est le même mot.
En français, c'est le même mot, alors c'est qui alimente une confusion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dès lors que vous passez de la conscience de l'individu à celle du groupe, très vite, vous allez tomber sur des questions qu'on pourrait appeler des questions de morale ou d'éthique. Et du coup, j'étais assez intrigué. effectivement, de tomber sur cette citation alléguée à Hitler. On ne sait pas si vraiment il l'a dite, mais c'est un des fidèles du régime nazi qui a très vite quitté dans les années 30, à la fin des années 30, le régime d'Hitler, et qui a immédiatement écrit à Paris d'ailleurs, un ouvrage dans lequel il s'est livré à plusieurs confidences, et il a notamment écrit cette citation alléguée d'Hitler, qui a été ensuite critiquée par certains historiens. Elle fait encore l'objet de débats. Et l'idée était de dire que Hitler critiquait la conscience en disant que la conscience était une invention juive. Alors, en soi, le fait qu'elle soit juive, je ne crois pas que c'est la partie importante, même si les juifs ont été des victimes évidemment particulières du nazisme. Mais ce que je veux dire, c'est que de s'en prendre à la conscience, je trouve ça intéressant dans une analogie qui justement s'intéresse à comment est-ce qu'on peut perdre conscience collectivement par ces phénomènes sociétaux, et dont le nazisme est pour moi un des exemples les plus paradigmatiques.
Une bonne société nazie serait une société dans laquelle les individus ne se poseraient plus de questions morales.
Oui, on peut dire ça comme ça, absolument. Et en fait, et au-delà du nazisme, un des lieux communs, on peut dire, de tous les régimes totalitaires avec une propagande très forte, et un lieu commun aussi de toutes les situations où il y a eu des massacres, et à nouveau, on peut le percevoir même avec le massacre, par exemple, en Afrique, des Tutsis et d'autres situations. En fait, à chaque fois, vous avez la même situation, c'est qu'une collection numériquement importante d'individus finit par croire que ce qu'ils croient, c'est la réalité. Ils ont perdu toute distance subjective, toute distance entre ce qu'ils pensent et ce qui est. Toute capacité à se dire peut-être que ce que je pense de l'autre et peut-être pas totalement la réalité, ou peut-être on peut le voir différemment. Et chaque fois qu'on perd cette distance...
Ou bien en usant d'analogie.
Oui, absolument.
Et c'est là le danger qu'on citait
absolument,
tout à l'heure.
Absolument, et c'est aussi
en
pour ça...
En disant que les Tutsis sont des rats,
voilà,
par exemple.
Voilà, exactement. Et donc là, je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler. Je consacre un chapitre entier à ça. À dire, voilà, attention, quand vous voulez jouer avec les analogies, c'est à deux facettes aussi. La première facette, qui est peut-être positive, c'est que l'analogie, c'est une des sources de découverte de liens, en fait, donc une source d'intelligence, on pourrait dire, sans pareil, aussi bien en science, en pensée, même le vocabulaire qu'on utilise, souvent, on va faire appel à des analogies en permanence pour exprimer ce que nous pensons. Donc, tisser des liens entre des choses différentes, c'est presque l'étymologie d'intelligence, c'est d'établir des liens entre des choses qui apparemment n'en ont pas, en tout cas se présentent à nos yeux comme n'en ayant pas. Et donc, cette capacité à pouvoir faire œuvre d'analogie, c'est une capacité importante, et il y a un ouvrage très intéressant récent de Hofstadter et Sanders qui est consacré à cette idée de l'analogie, du raisonnement par analogie. Pour autant, il faut toujours garder à l'esprit que si vous voulez user d'analogie, une analogie, ce n'est pas une identification. Donc quand vous dites « c'est comme si » ou « ça ressemble à », dans l'exemple que j'utilise dans ce livre, eh bien, on parle comme s'il existait une épilepsie d'une société. On peut se faire cet exercice, c'est ce que j'essaie de faire, mais il faut en permanence garder à l'esprit que c'est un comme-si, c'est-à-dire qu'une une société n'est pas un cerveau, un individu n'est pas un neurone. Et il me semble extrêmement important, au risque sinon de tomber dans des écueils de l'analogie, ce que j'appelle l'analogie justification, c'est quand parfois vous avez des gens qui utilisent une analogie simplement pour valider des idées préconçues, pour faire semblant qu'elles viennent d'ailleurs, une sorte de blanchiment, si vous voulez. Et pire que ça, vous avez des fois une analogie arme de combat, où vous êtes là non pas pour faire penser, pour faire mobiliser les esprits, pour essayer de les faire réfléchir, mais plutôt pour les tétaniser, les sidérer.
Les sidérer, oui. Vous pouvez donner l'exemple du sida mental.
Ouais, moi je me souviens de ça, le sida mental de Powell, qui avait été un truc qui était sorti comme ça dans une pleine période, évidemment, où l'infection par le VIH c'était quelque chose de terrible, où il n'y avait pas de traitement, où les gens tombaient comme des mouches, où c'était une catastrophe, et où vous avez cette analogie extrêmement forte, où là, à l'époque, il s'en prenait à ce qu'il appelait une forme de corruption de la jeunesse, etc. Il dit c'est un sida mental, qui avait évidemment été repris par d'autres personnes sur l'échiquier politique, notamment dans l'extrême droite française, mais l'analogie arme de combat n'est pas uniquement spécifiquement lié à l'extrême droite, c'est peut-être le problème. Tout le monde peut en faire usage, peut faire usage de ses écueils. Donc en tout cas, il faut savoir que quand vous utilisez une analogie, il faut en permanence garder à l'esprit tout simplement que c'est une analogie. Ce n'est pas une identification. Et si vous êtes capable de garder tout ça à l'esprit, mais c'est garder toujours à l'esprit qui est peut-être difficile, eh bien je pense qu'on peut user des analogies sans tomber dans les risques qui leur sont associés.
Lionel Nakache, au détour d'un chapitre, vous parlez d'Einstein.
Oui,
Einstein a beaucoup utilisé les analogies. Bon, c'est vrai, mais il a aussi tenté de formuler des équivalences. Ça va plus loin que l'analogie. C'est-à-dire, oui. Par exemple, il comprend que une personne qui tombe ne sent pas son propre poids.
Oui.
Donc le fait qu'elle tombe annule la cause de sa chute, qui est la gravité. Oui. Les objets qui tombent avec elle semblent être en apesanteur par rapport à elle. Et donc, il va établir à partir de là une équivalence entre l'accélération et la gravitation. Et ça le mènera un peu plus tard vers la relativité générale. Donc c'est plus fort qu'une analogie.
Ah oui, je pense que c'est plus fort.
Et je parle d'Einstein parce que quand Hitler est arrivé au pouvoir, Einstein, je crois, est un des premiers à avoir compris que allait se mettre en place une mise au pas de toutes les consciences individuelles.
Ça, c'est fascinant.
Ouais. Une sorte de, le terme n'existait peut-être pas à l'époque, mais une sorte de condensation de Bose-Einstein, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que des particules qui sont identiques, des individus en l'occurrence, se mettent toutes dans le même état physique. Ouais. En l'occurrence, le même état psychologique.
Donc si on vous suit, il utilisait une analogie là.
Oui, oui, bien sûr. Mais donc, si je parle de ça, c'est parce que l'épilepsie, d'après ce que j'ai compris, chez les malades, est toujours précédée lorsqu'une crise advient par ce que vous appelez une aura épileptique.
Oui, alors pas toujours, mais certains patients peuvent présenter une aura épileptique. Oui.
Dostoïevski en parle, dites-vous.
Oui, absolument. Il y a une citation qui est fameuse et qu'on utilise souvent lorsqu'on enseigne en fait aux étudiants de médecine ou de neurosciences les symptômes et en fait le vécu subjectif d'un patient épileptique. Il y a certaines crises d'épilepsie qui, avant de gagner l'ensemble du cerveau et donc avant de se généraliser, donc avant qu'il y ait une perte de conscience, certaines crises débutent dans une région particulière, et notamment des régions temporales. La région temporale, c'est une région notamment dans laquelle les phénomènes affectifs, émotionnels sont importants. Et donc vous avez ces patients qui vont vous décrire, qui vont vous dire en réalité que la crise, avant de perdre conscience, et parfois la crise s'arrête là, ils entrent dans un état qui est extraordinaire au sens propre, c'est-à-dire qu'ils sont dans un état subjectif qu'ils n'ont jamais ressenti auparavant.
Je vous cite, citant Dostoïevski, voilà ce qu'il écrit. « Vous êtes tous en bonne santé, mais vous ne pouvez pas vous douter du bonheur suprême ressenti par l'épileptique une seconde avant la crise. Je ne sais pas si cette félicité équivaut à des secondes, des heures, des mois, mais vous pouvez me croire sur parole. Tout le bonheur que l'on reçoit dans une vie, je ne l'échangerai pas pour rien au monde contre celui-ci. »
Ouais, absolument.
Incroyable, c'est un grand trip.
C'est absolument incroyable. Et c'est Dostoïevski n'en fait pas des voilà, n'en fait pas. C'est pas un effet d'écriture. C'est vraiment comme ça que les patients vous racontent les choses. C'est-à-dire que ils vivent pendant des secondes qui peuvent s'écouler comme subjectivement comme des minutes ou des heures dans des états que vous ne ressentez jamais lorsque vous n'êtes pas dans un état d'épilepsie. Alors ces états peuvent parfois être colorés d'une sensation extrêmement agréable, mais à l'inverse, il peut y avoir des terreurs, des auras qui sont en plein d'une sorte de terreur incroyable. Mais dans les états agréables, vous avez des symptômes ou en tout cas des colorations subjectives qui sont souvent les mêmes. Par exemple, il y a des phénomènes d'hypersyntonie. C'est des moments où vous vous sentez vraiment branché sur le monde, un peu sur l'entièreté du monde. Vous vous sentez un peu dans une sorte de ce sentiment océanique, un peu à la Romain Rolland, d'être inclus, d'avoir une intelligence du monde, de tout comprendre, etc. Alors, ces phénomènes, ils ont toujours une coloration émotionnelle très forte. Et le point intéressant, c'est que, comme ce sont des périodes que nous ne vivons pas d'habitude, ils sont parfois associés à des sortes de saillies créatives. Non pas qu'un patient qui n'est pas artiste ne va se mettre à composer une symphonie, mais lorsqu'un patient est artiste, vous avez souvent des intuitions ou des idées qui peuvent naître de ces auras. Autrement dit, dans ces auras, il y a deux choses. Il y a à la fois une alerte épileptique, la crise commence. Il y a un état émotionnel hors du commun.
Mais la personne comprend qu'elle est au bord d'une crise ?
Alors ça dépend. Certaines oui. Certaines oui, et certains patients, en fait, qui vivent bien avec leur crise, qui connaissent leur crise comme personne d'autre, en fait, ne les connaît, sont parfois capables de trouver des contre-mesures, d'identifier l'aura et d'avoir identifié quels sont les phénomènes qu'ils doivent faire, par exemple s'arrêter, fermer les yeux, respirer différemment pour essayer de bloquer la propagation de la crise, et parfois ça peut marcher. Et puis surtout, c'est un signal d'alerte pour pouvoir s'arrêter, éventuellement prendre un traitement si besoin, pour essayer d'empêcher cette généralisation. Donc ces phénomènes existent au niveau individuel. Ils ne sont pas systématiques, mais ils existent.
Alors, Lionel Nakache, vous avez expliqué tout à l'heure comment l'état d'une société peut faire écho à ce qui se passe dans un cerveau pendant une crise d'épilepsie. L'aura épileptique, ce bonheur.
Alors, l'aura.
Ce serait quoi l'équivalent pour la société ?
Alors, je me suis posé la question. Dans ce jeu analogique, l'aura épileptique sociétale, pour moi, ça peut être deux choses. Premièrement, c'est ces phénomènes de masse où il y a une perte de raison, un peu. Il y a une sorte de comportement qui est guidé plutôt par des émotions extrêmement fortes. On peut se demander si certaines crises financières, qui sont souvent, en fait, des crises de confiance, où vous avez un comportement collectif qui va mettre en péril quelque chose, eh bien, on peut se demander si ces mouvements, un peu là, ne seraient pas l'équivalent. Et l'hypothèse, ensuite, la seconde, qui me semble peut-être plus intéressante à creuser, c'est on peut se demander si, en dehors de cette épilepsie du monde dont on parle, il y a quelque chose qui est aussi une singularité des temps contemporains, c'est ce retour du religieux. Retour du religieux que Malraux déjà avait prédit sous différentes formes, mais en tout cas, le retour des différentes formes religieuses. Et ce que j'entends par là, c'est pas uniquement des formes extrêmes de l'extrémisme religieux. Je parle du retour du spirituel. Vous avez, il suffit de voir la une de tous les magazines, de voir les... Vous avez en permanence une sorte d'espiritualité laïque, néo-zen, etc., ou post-bouddhique, jusque des modes spirituels religieux plus traditionnels ou des formes extrêmes. Vous avez aujourd'hui une sorte de retour du religieux. Donc je me demande si le retour du religieux ne serait pas l'équivalent de l'aura épileptique sociétale.
C'est-à-dire qu'elle elle annoncerait une vraie c'est-à-dire crise d'épilepsie, ouais, un appauvrissement des messages.
Ça voudrait dire qu'en sentant qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore dans la bascule d'une perte de conscience sociétale, il y a déjà néanmoins un ressenti émotionnel de quelque chose qui est bizarre. Et que cette bizarrerie appellerait un besoin de spiritualité qui prendrait différentes formes.
Ah, c'est l'angoisse de l'épilepsie qui engendrerait une remontée du religieux, c'est
pas ça ? L'angoisse de l'épilepsie, mais les premiers signes de ce dysfonctionnement qui donneraient lieu, comme chez le patient qui a une aura, à ces contenus particuliers, à ces contenus émotionnels particuliers qui seraient consécutifs à ces... au moment où il y a cette sorte de dysfonctionnement des réseaux sociétaux qui peuvent évidemment finir par influencer le contenu mental partagé par des individus. C'est une piste.
C'est une piste, mais vous dites que pour maintenir la société dans un bon état de démocratie, par exemple, oui, il faut que les individus conservent leur liberté, puissent dire ce qu'ils pensent, etc.
Ouais.
Quel serait, si on poursuit votre analogie un peu plus loin, l'équivalent de ce qu'on appelle l'état d'urgence d'aujourd'hui, qui est déjà une contradiction dans les termes, un état d'urgence, oui, surtout si on le prolonge.
Oui, alors vous avez raison. Et d'ailleurs, j'en parle. Ce livre était écrit avant,
quand même des
avant
les attentats
du 13 novembre, absolument.
Et donc, si des libertés sont menacées, ça veut dire que l'information qui circule s'appauvrit.
Mais vous avez raison, mais en fait, je cite notamment à nouveau Romain Rolland. Parce qu'en 1927, en fait, Romain Rolland a été notamment à l'origine d'une pétition en fait en réaction à une proclamation d'une loi, en 1927, qui s'appelait comme ça, la loi de l'organisation de la nation pour le temps de guerre. Et en fait, c'est une pétition qui, en 1927, a été signée par des centaines d'intellectuels et qui réagissait justement, un peu comme aujourd'hui le débat est ouvert, sur les conséquences d'un état, d'un équivalent d'état d'urgence en termes de restriction des libertés individuelles. Alors ma position personnelle, en dehors de toute idéologie ou tout militantisme, c'est la suivante. C'est que je peux concevoir, moi, qu'on soit amené à demander aux citoyens d'une société de limiter ponctuellement certaines autonomies du sujet pour des raisons qui sont identifiées, qui sont explicites dans des cadres très précis. Mais que d'abord, ça doit être l'exception, pas la règle. Et que quand c'est l'exception, ça doit susciter une extrême méfiance de la part de ce qu'on peut appeler les structures intermédiaires, tout ce qui est la protection d'une démocratie, pour être certain qu'il n'y a pas un mésusage de cela. Qu'il n'y a pas un mésusage, qu'il n'y a pas une extension de ces mesures pour des motifs qui ne sont pas les motifs véritables qui, eux, pourraient fonder la légitimité d'une telle décision. Donc voilà, c'est ça ce que moi je pense là-dessus. Autrement dit, bannir de manière systématique tout usage d'une limitation pour une raison, je trouve ça idiot et en tout cas idéologique, donc ça ne m'intéresse pas trop. Mais à l'inverse, justifier de manière absolument tranquille, c'est la fin de la démocratie. Donc en gros, c'est toujours, et je crois que c'est pas un scoop, hein, mais c'est souvent comme ça, il y a parfois des situations radicales qui appellent de nous des prises de décision radicales, justement. Mais la plupart du temps, les prises de décision les plus courageuses, ce sont celles qui permettent de ne pas tomber dans la démagogie d'aucun extrême et d'arriver à rester sur cette cime, sur cette pente un peu difficile où vous dites, c'est pas calme, ce n'est pas serein, il faut en permanence faire un effort, savoir si ce qu'on fait c'est correct ou pas. Mais je crois que dès que c'est un peu comme cet symptôme de l'épilepsie du cerveau, dès lors que vous transformez un problème compliqué en quelque chose d'ultra simple, stéréotypé, ben je pense que la plupart du temps vous vous trompez. Dans un cas ou dans un autre.
Mais... aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations, les canaux de l'information se multiplient,
oui,
on reçoit en permanence des alertes,
ouais,
pas toujours des alertes qui correspondent à des situations d'urgence, bien ou sûr, d'intérêt.
Ouais.
Donc il y a quand même un risque que les informations ne soient pas hiérarchisées,
ouais, c'est
qu'elles
un vrai
soient
problème,
tellement nombreuses qu'elles, ouais, ne soient plus gérées, et que du coup, on devienne carrément inconscient, ouais, de ces informations.
Absolument, vous avez
alors,
parfaitement
raison. Alors, quelles sont les bonnes hygiènes qu'on doit adopter pour ce qui est de la communication,
alors moi j'en
afin
vois,
de prévenir,
ouais,
les crises épileptiques.
De crise d'épilepsie sociétale. Moi j'en vois quelques-unes, j'essaie d'en livrer quelques-unes. Le point intéressant, quoi, en tout cas qui moi m'a surpris, c'est que autant l'analogie moi m'a aidé à réfléchir, à voir les choses différemment, mais lorsqu'on arrive au terme des solutions, qu'est-ce qu'on peut proposer, ou en tout cas, ou ne pas proposer aussi hein, comme solution, le premier constat c'est que la plupart des choses qui dérivent directement, logiquement de cette analogie, ce sont des choses connues. Comme en fait, on peut le résumer en une chose, c'est la protection de la démocratie. Mais la protection de la démocratie, ça veut dire aussi, la démocratie, c'est pas une chose, c'est pas un équilibre, c'est une tension. C'est-à-dire qu'il faut que les individus, les citoyens soient formés, soient éduqués, développent leur esprit critique.
C'est pas, ne soient pas apolitiques.
Absolument, voilà, absolument. D'où on revient sur cette citation de Malouine. Il faut être politique. On n'a pas le choix. Et voilà, il faut avoir cette conscience politique.
On pourrait dire qu'un État totalitaire est un État dans lequel les individus sont apolitiques.
Absolument. Ouais. Ou en tout cas, en étant apolitique, en tout cas, en ayant remis à quelqu'un d'autre leur statut de fonction politique. Ils ont un rôle politique, mais qui est évidemment
passif.
Dommageable du coup. Mais du coup, on arrive avec cette analogie, avec l'idée qu'il faut protéger à fond la démocratie. Alors on peut se dire, bah oui, tout ça pour ça. Sauf que tout ça pour ça, lorsque parfois vous vous rendez compte qu'en utilisant une voie de raisonnement totalement différente de celle qu'on utilise habituelle, vous tombez sur la même conclusion, c'est que probablement la conclusion est importante, donc de protéger la démocratie. Maintenant, plus spécifiquement pour ce que vous disiez, le bombardement d'informations, c'est un point très important qui dépasse même cette analogie. Et un des points sur lequel, une des solutions que j'ai vues, qui n'est pas la mienne, mais que je trouve intéressante, il y a cette notion d'une sorte d'interruption volontaire, transitoire, régulière, de notre connexion avec le monde. Ça a été à un moment donné appelé le Shabbat digital, ensuite ça a été appelé différemment. Ça n'a rien de religieux, évidemment. Mais l'idée, en fait, qu'on en fait tous l'expérience quotidiennement, d'être avec nos téléphones portables, nos emails, etc., on est en permanence assailli de tout ça. Et que c'est très difficile d'arriver à s'extraire subjectivement, à garder une distance avec tout ce qui nous bombarde, à pouvoir trouver un temps personnel qui nous permette de réfléchir aux choses, de prendre cette distance qui, en fait, je reviens toujours à cette notion de distance subjective qui vous permet de dire, il y a quelque chose qui s'impose à moi, mais j'ai encore une capacité à l'observer, à la manipuler, ne pas la laisser m'impressionner, on pourrait dire, s'impressionner sur mon cerveau.
Et donc, peut-être que cette notion... Mais est-ce qu'on pourrait faire fonctionner l'analogie dans l'autre sens? Imaginons une société démocratique parfaite. Qu'est-ce qui... dans cette société fonctionne comme fonctionne l'activité cérébrale dans un cerveau, entre guillemets, sain?
Alors, tel que je suis capable de répondre à cette question, ça correspondrait, je pense, à l'équivalent sociétal. Donc, dans un cerveau conscient et sain, qui fonctionne bien, je vous ai dit que l'état de conscience, on le mesure comme une sorte de conversation cérébrale à longue distance entre tous les interlocuteurs du cerveau. Donc imaginez du coup le cerveau qui est plein d'individus qui discutent entre eux, mais qui discutent non pas de manière indépendante par petits groupes, mais qui discutent vraiment comme une sorte d'agora comme ça. Et ils sont pas tous d'accord, hein. Et ils sont pas tous les mêmes. Donc chacun a, donc il y a des singularités de régions cérébrales, des spécificités différentes. Il peut y avoir des conflits d'ailleurs, mais tout ça est géré de manière cohérente et unifié. Alors on pourrait dire que l'équivalent, c'est une société démocratique. Pour moi, la démocratie idéale, c'est une démocratie où tous les individus, on revient à cette valeur clé pour moi qui est l'individu, tous les individus peuvent trouver un moyen d'épanouissement et garder leur singularité. Et c'est ça le plus dur d'après moi. Et souvent, même en dehors des neurosciences, souvent votre rapport au groupe, au collectif, il est difficile parce que d'un côté, vous n'êtes pas comme les autres. Et personne n'est comme les autres. Donc il y a évidemment le risque de se fondre, d'une fusion dans laquelle vous disparaissez. Et puis à l'inverse, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas comme les autres que vous devez ignorer les autres. Donc d'arriver à trouver cette bonne distance qui vous permet de continuer à être qui vous êtes. Moi, Lionel Nakache, vous, Étienne Klein, de pouvoir discuter en étant chacun nous-mêmes, mais en ayant la capacité d'échanger, parfois de ne pas être d'accord. Eh bien ça, pour moi, c'est ça une société démocratique. C'est une société dans laquelle toutes les instances intermédiaires, tous les citoyens qui la peuplent sont capables de continuer à être qui ils sont, d'être différents les uns des autres, de ne pas être d'accord. Et donc, une fois de plus, ce n'est pas... Vous savez, une des premiers trucs que vous avez en médecine, en biologie, quand vous apprenez la biologie, c'est de découvrir que la vie, ce n'est pas l'équilibre, mais c'est un état stationnaire. C'est qu'en gros, il ne s'agit pas de mettre tout le monde d'accord une fois pour toutes. C'est qu'en permanence, il y a un phénomène continu qui doit être entretenu, qui doit être vivant, une sorte de dialogue et donc de conflit vivant qui permettent de le faire de manière...
Ça suppose qu'il y a un langage assez subtil pour pouvoir échanger des informations qui soient riches.
Oui.
Alors vous avez un petit chapitre consacré, c'est plutôt une note en bas de page, je crois, à une application pour smartphone qui s'appelle Yo.
Oui, ça m'avait amusé de découvrir
ça. Qui m'a fait bien rire, je dois dire.
Oui.
Vous pouvez nous dire ce que c'est ?
Oui, alors c'est incroyable parce que c'est une application pour smartphone et je la cite là parce que c'est l'aspect... on pourrait dire imagination de la réduction la plus ultime de la communication de masse. Donc c'est vraiment elle existe, hein. Je l'ai pas téléchargée mais elle existe.
Et l'international.
Oui, alors l'idée c'est qu'absolument c'est que il faut lire d'ailleurs la notice, je la cite, la notice d'utilisation en fait qui vante en fait le mérite de cette application Yo, c'est qu'en fait vous allez communiquer avec quelqu'un d'autre, non pas avec un tweet, non pas avec un nombre limité de caractères mais avec uniquement le phonème Yo, Y-O.
Quoi que vous ayez à dire.
Quoi que vous ayez à dire, vous envoyez Yo. Alors, vous pouvez le lire, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux.
J'ai sous les yeux. Donc ça peut vouloir dire bonjour, ou bien ça peut vouloir dire chérie, je pense à toi, ou bien ma réunion est terminée, tu peux passer à mon bureau, ou bien es-tu levé, ça peut être une question aussi.
Oui.
Bon, c'est déclinable à l'infini, évidemment. Et
alors, évidemment, voilà, on voit bien l'astuce, mais le point qui me semble intéressant, c'est
complètement fatigue, en fait.
Bah oui, et que du coup aussi, quand on réfléchit à la distance du langage, en fait, que la communication entre des individus peut passer de quelque chose d'inarticulé, qui n'a aucune complexité, qui est prévisible à l'infini, qui est stéréotypé, qui est appauvri, jusqu'à un échange d'une complexité, d'une richesse extrême. Là, Yo, ça remplissait une des cases extrêmes de la classification des modes de communication. Mais c'était plutôt un clin d'œil, voilà, amusé.
Alors, vous parlez aussi dans votre livre du rapport à l'espace, de la mémoire des lieux.
Oui.
Et vous avez une très belle page sur Modiano, Patrick Modiano, oui, écrivain de la mémoire, qui n'invente pas de lieux.
Oui.
Toutes les adresses qu'il cite dans ses ouvrages existent. Vraiment. D'ailleurs, je suis bien placé pour le savoir, parce que j'habite un appartement qui, qui est dans l'un de ses romans. Je ne vais pas donner l'adresse. Et pourquoi est-ce que ça vous a inspiré? Les prix Nobel de la même année?
Oui, j'avais trouvé ça.
En médecine.
J'avais trouvé ça amusant. Et du coup, même Libération avait publié dans les pages rebond, hein, en fait, un article vraiment en réaction à cette. Où je m'interrogeais sur la simultanéité de deux prix Nobel. Vous avez eu cette année-là, en fait, en 2015, le prix Nobel, en fait, de physiologie et de médecine, qui a été donné, en fait, à trois chercheurs, un couple et un chercheur. Donc, ce chercheur, sur la découverte de ce qu'on appelle les neurones de lieu, les play cells, et puis leurs cousines, qui sont l'équivalent des play cells, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, en gros, c'est une découverte majeure, hein, des neurosciences, dès les années 70, c'est qu'il y a des neurones qui vont coder l'espace. Et de manière vraiment profonde. On rentre dans un lieu, immédiatement, il va y avoir une sorte de GPS cérébral qui va nous permettre de représenter le lieu.
Et de montrer et de voir qu'il n'est pas comme les autres.
Qu'il n'est pas comme les autres. Et absolument. Et qu'en fait, on pousse à l'extrême. Et là, j'accélère beaucoup. Mais c'est qu'en fait, même la mémoire de quoi que ce soit, la mémoire des épisodes de notre vie, en fait, est souvent spatialisée. C'est-à-dire que souvent, nous allons pouvoir, pour mémoriser quelque chose, nous allons spatialiser le souvenir pour arriver à l'intégrer à nos souvenirs. C'est pour ça qu'il y a une méthode qu'on appelle la méthode des lieux. Pour apprendre, si vous voulez apprendre un texte très long, le mieux, c'est de prendre en fait un itinéraire que vous connaissez très très bien et puis de voyager mentalement et de déposer à chaque endroit, chaque étape, un bout du texte. Et c'est comme
Donc la mémoire temporelle est une affaire de géographie.
Aussi, ouais, je ne sais pas si Bergson aurait bien aimé ce temps subjectif, mais en tout cas, vous avez cette idée, on a cette méthode, Cicéron en parlait, ce n'est pas lui qui l'a lui restitué cette méthode, mais c'est la méthode des lieux, elle est encore utilisée beaucoup. Alors pourquoi c'était intéressant? C'est que la même année, le prix Nobel de médecine récompense les découvreurs des neurones des lieux, avec tout ce qu'on a dit sur la mémoire des lieux, la mémoire de l'identité, la mémoire subjective, la mémoire des épisodes de notre vie. Et l'écrivain qui est récompensé, ce qui est Patrick Modiano, qui évidemment n'est pas le seul écrivain de la mémoire, mais qui par contre est sa singularité, en tout cas moi comme lecteur depuis longtemps, c'est de l'envisager comme l'écrivain de la mémoire des lieux. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, tous ces livres, en fait, sont habités par des espaces très précis, par des lieux, des quartiers de Paris, des rues, la rue Boileau dans le 17e, des quartiers de Nice, Cimiez, etc. Et vous avez en permanence, en fait, l'articulation de déambulations d'individus qui vont vous permettre de les mémoriser, de savoir qui ils sont. Donc vous avez, la même année, les neurones des lieux et puis la place de l'étoile, qui est un des premiers romans de Modiano, qui sont récompensés. Donc je me demandais si c'était un clin d'œil malicieux du prix Nobel ou bien si c'était un hasard.
Est-ce qu'ils en étaient conscients?
Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas eu leur réponse.
Peut-être qu'ils faisaient une crise d'épilepsie.
Ah, écoutez, en tout cas, une aura créative alors.
Lionel Lacache, vous parlez également dans votre livre de la duplication du monde.
La réduplication.
C'est quoi la réplication là?
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, oui. Alors c'est l'expression qu'on utilise en neuropsychologie.
Réplication.
Ouais. Nous on parle de réduplication, mais c'est vrai que c'est un déjà.
Réduplication.
Ouais, c'est ça. Mais
ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Mais je crois qu'on s'est compris. On veut dire en tout cas l'idée que le monde se copierait à l'infini. En fait, que il y ait donc cette idée que ce voyage immobile par lequel j'ouvrais cette réflexion, à savoir que dans beaucoup d'endroits du monde, le monde semble faire des copier-coller de tout ce qu'on retrouve en hôtel, en rue, en centre-ville, en décor, en tourisme, etc. Vous avez l'impression de plus en plus d'aller dans les mêmes lieux, en fait, de voyager sans voyager, etc. Alors, on peut s'interroger sur le comment.
À ce propos, vous citiez une interview assez savoureuse de Marguerite Duras par Michel Drucker en 1985.
Absolument, voilà, et j'étais content de citer cette interview.
Elle dit, dès 85, c'est plus la peine de voyager.
Exactement.
Parce qu'on le fait trop vite.
On le fait trop vite, voilà. Elle a insisté sur le temps subjectif du voyage. Et donc, je dirais que la citation de Duras, qui est vraiment merveilleuse, insiste sur la dimension subjective de ce voyage. Et alors que dans ce livre, j'insiste sur le fait que, objectivement, le monde, indépendamment du temps subjectif, objectivement, se réduplique, devient le même de plus en plus. Alors on peut essayer d'explorer le mécanisme, comment ça se passe, mais on peut aussi s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que le monde fonctionne comme ça? Alors il s'agit encore là que d'une hypothèse, mais en fait, le point intéressant, vous pouvez vous dire, bon, si vous débarquez quelque part, comme société, et que vous construisez un endroit qui ressemble de plus en vraiment beaucoup à ce que vous connaissez vous. Peut-être d'abord c'est parce que c'est la seule chose que vous savez vraiment faire facilement, c'est de rédupliquer ce que vous connaissez. Deuxièmement, il s'avère que d'un point de vue politique, on revient à la politique, si le lieu sur lequel vous débarquez n'est pas vide, il y a d'autres gens. Alors pour essayer de créer une familiarité supérieure à la leur, qui sont pourtant les habitants du lieu, c'est peut-être pas mal de faire comme si c'était votre lieu. Et quand on revisite l'histoire de la colonisation européenne, par exemple, de voir que ça commence par une sorte d'exercice nominaliste, c'est-à-dire que la plupart des lieux sont des nouveaux quelque chose. La nouvelle Angleterre, le nouveau Brunswick, la nouvelle Amsterdam, la nouvelle Guinée, tout est nouveau. Et donc une sorte de nouvel ancien monde.
On transporte son pays avec soi.
Voilà, on l'en transporte à la fois par facilité, mais aussi, je pense, pour créer une sorte de familiarité qui au début est artificielle, qui permet de justifier une présence, et notamment lorsqu'il y a une compétition, par exemple, coloniale. Donc on retombe là aussi sur des questions peut-être politiques. Et là où ça devient, alors ça c'est peut-être le moteur primitif de cette réduplication du monde.
C'est l'exportation plus que le mimétisme, en l'occurrence.
Voilà, exactement. L'exportation plus que le mimétisme, absolument, une exportation qui est motivée par la facilité, mais aussi par la territorialité et par des enjeux
de pouvoir.
De pouvoir, voilà. Et ça fait ces trois forces, je pense, qui existent. Et là où ça devient, où du coup l'exercice devient pour moi, en tout cas, vertigineux, c'est que en neuropsychologie, donc chez des patients qui souffrent de lésions cérébrales, on a un syndrome comme ça, qui est, on appelle ça une amnésie réduplicative, une paramnésie réduplicative, ce qui est toujours un jargon médical. Donc, mnésie,
oui,
c'est la mémoire.
Expliquer.
Voilà. Mnésie, c'est la mémoire. Paramnésie, c'est-à-dire que c'est une mémoire d'à côté, donc c'est une mémoire incorrecte, c'est une fausse mémoire, une mémoire qui a une erreur de mémoire. Et réduplicative, c'est qu'on parle justement des patients. Je vous donne un exemple, un des patients qui m'avait beaucoup marqué,
oui,
lorsque je l'avais exploré, je l'ai rencontré.
Ça.
Mais oui, c'est un patient qui, suite à des lésions cérébrales que je ne vais pas décrire, était à la Salpêtrière pour qu'on essaye de l'aider et de faire un bilan de ce qu'il avait. Et c'est un homme très, très éduqué et tout à fait lucide sur beaucoup d'aspects, sauf un. Et donc, il nous disait qu'il était à Montréal. Il était à Montréal. Il savait bien qu'il y avait un Montréal au Canada, mais lui était dans le Montréal de Paris. Et ça prenait une force tellement puissante chez lui, hein, c'est difficile à comprendre peut-être pour des auditeurs qui n'ont pas rencontré de tels patients, c'est que, je me souviens très bien, il était une fois dans sa chambre d'hôpital, et sur les, vous savez, à Paris, à la PHP, il y a les draps de l'hôpital, l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui sont en jaune, comme ça, et spontanément, parce que c'est un homme intelligent, s'était tourné vers moi, il m'avait dit, vous savez, j'ai bien remarqué qu'il y a marqué assistance publique hôpitaux de Paris, mais il s'agit de l'assistance publique hôpitaux de Paris, de Montréal. Et c'est vraiment ça. Et donc, le point qui, moi, m'interpellait comme neurologue, c'est que ces patients qui sont perturbés dans leur mémoire d'eux-mêmes, parce qu'en fait, le monde devient un monde dupliqué à l'identique, et qui ont du mal, du coup, à avoir... Il y a des aspects identificatoires qui sont difficiles. Le fait de se rendre compte que nous produisons sociétalement un monde qui ressemblerait, sous certains aspects, à la version objective d'un monde redupliqué, ce n'est pas sans conséquence également sur notre mémoire collective, sur notre capacité collectivement à nous identifier, à nous reconnaître, à savoir où nous sommes, et donc à savoir qui nous sommes.
Je pense que certains hommes d'affaires, certains matins, dans certains hôtels, ne savent plus s'ils sont à New York, à Rio, à Paris,
bah oui,
ou à Londres.
Oui, je pense que ça devient du coup très commun.
Merci Lionel Nakache pour cette conversation scientifique passionnante qui n'était pas que scientifique,
mais
également politique. Enfin, on a brassé beaucoup de sujets. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Pierre Mine et à la réalisation François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire au bas mot dans quelques instants, vous retrouvez Michel Simon pour Projection Privée.